CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Pocori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre. Pour faire changer les choses.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser. Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann la Thérapeute a déjà fait ses preuves. Yann la Thérapeute possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yann la Thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Show. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la Thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Moi maintenant, donc je pense que nous avons perdu assez de temps. Je t'aime, tu m'aimes, pour moi c'est évident. Ton point préservatif et prenons-lui mon temps. Cesse de me dire dès que je m'approche de toi.
N'y pense même pas.
Fais-moi confiance, abandonne-toi à moi.
N'y pense même pas.
Oui, dimanche 1er décembre 2019, journée mondiale de lutte contre le sida. Ayant pour thème « Les communautés font la différence ». Commémoration, brunch, verre de l'amitié. témoignages, place aux femmes, aux immigrants, aux transgenres, aux jeunes, stigmatisation, discrimination, innover pour combattre les préjugés, l'autotest VIH, nouveau service de dépistage à Toronto, les avancées dans le monde et la fin du sida en vue, peut-être. Découvrez la programmation complète sur www.popourishow.com. Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires et les personnes vivant avec le VIH qui ont participé à la préparation de cette édition spéciale. Merci de votre grande générosité et vos dons. Popourri Show, CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime. Voices for World AIDS Day. Eh oui, madame, monsieur, bien le bonjour. Nous sommes en direct à Hot House Studio, Université de Toronto, U of T, 100 ans déjà. Dernier bilan financier de notre campagne de financement, $85,000. Et oui, l'objectif est de 100 000. Merci infiniment du fond du cœur pour votre générosité. L'ingénieur du son, DJ Devera, accompagné de plusieurs DJ et nos radios partenaires, production et animation, votre serviteur, Eric Adair, en direct sur www.cut.fm. Et merci à nos partenaires qui parrainent, qui financent cette émission. Les éditions Prise de Parole, Education Consulting, Inc., Noir et Psy, et un nouveau partenaire, madame, monsieur, tenez-vous bien, le French Department, le département de français, French Studies, à l'université de Waterloo, à qui nous disons bien le bonjour, ils sont nombreux à nous écouter, ils étaient même à Ciné Franco hier soir, et oui, qui vous invite d'ailleurs à poser votre candidature pour des bourses de maîtrise et de doctorat d'une valeur de 5 à 25 000 dollars, offerte par la chaire de recherche du Canada en études des minorités. Merci, merci, merci mille fois pour cette collaboration, ce partenariat. C'est un projet un peu innovateur. La demande d'admission, je vous rappelle, et le dossier de candidature sont à soumettre pour le 1er février 2020 en vue d'une admission à l'automne 2020 ou pour le 1er juillet 2020 en vue d'une admission à l'hiver 2021. En ce dimanche 1er décembre 2019, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et cette année, le thème choisi par l'ONU-SIDA, les communautés font la différence. Au programme, commémoration, brunch et un verre de l'amitié après l'émission avec nos invités. Ils sont plusieurs dans le studio, mais ils veulent garder l'anonymat pour le moment. Plusieurs médias et organismes communautaires se mobilisent pour proposer des actions de visibilité, de plaidoyer, de sensibilisation et de dépistage partout dans le monde. C'est aussi un moment propice pour se livrer à une réflexion sur ce que nous avons accompli à l'échelle nationale et internationale. C'est aussi l'occasion de commémorer ceux et celles qui nous ont quittés et de sensibiliser le public, les jeunes, au sida, à la pandémie du virus du VIH. Une émission en collaboration avec Radio France Internationale. Nous avons concocté cette émission spéciale avec les meilleurs médecins, chercheurs, des personnes vivant avec le VIH dans la région de Toronto, la co-découvreuse du virus du VIH, des spécialistes, des gens du terrain, des gens au cœur du combat au Canada, en Europe, en Afrique, et peut-être même un petit détour en Martinique, la Guyane. Eh oui, la fin du sida est-elle en vue? Quelles sont les avancées? Immigrants, réfugiés francophones vivant avec le VIH, comment utiliser l'autotest VIH? Traitement, prise en charge, recherche, où en est-on en 2019? Les toutes dernières statistiques sur le VIH avec le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé. 2030, c'est l'objectif visé par l'ONU pour la fin du sida. Utopie ou réaliste? Oui, on reçoit le docteur Françoise Barré-Sinoussi, les médecins, virologues, chercheuses, co-découvreuses du VIH. Elle a obtenu le prix Nobel de médecine en 2008. Elle est membre de l'Académie des sciences et actuelle présidente de SIDAction en France. Elle est présidente d'honneur du réseau international des instituts Pasteur. Elle s'appelle Lucie, elle a que 26 ans et elle vit avec le VIH depuis 2012, témoignage. Et enfin, malgré les efforts et le travail des organismes francophones, Action Positive et le Centre francophone de Toronto, et il y a toujours malheureusement des gens qui ne se sentent pas très bien accueillis dans ces services. Et oui, et surtout les personnes issues de la diversité. On en parle si on a le temps. Et cette émission est réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, l'ONU SIDA, Expertise France et le gouvernement du Canada. Merci pour votre générosité. Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires et les personnes vivant avec le VIH qui ont participé à cette édition spéciale. Et je vous rappelle que vous pouvez découvrir toute la programmation complète sur notre site. Allez vite, www.popourichaud.com. Devenez membre, devenez partenaire, devenez animateur, chroniqueur. Oui, vous êtes tous, toutes les bienvenus pour nous joindre uniquement aujourd'hui parce que cette émission est en duplex. popourri@cut.fm. Envoyez-nous vos questions, vos commentaires. popourri@cut.fm. Et quelques grands titres qui ont retenu notre attention cette semaine. Très très belle soirée de clôture de Ciné Franco hier soir au Hot Dogs Ted Rogers Cinema. Est-ce que vous étiez des sales combles avec le film Antigone, film coup de poing. Coup dur, hein, assez dur, pénible à visionner, mais très important. Malheureusement, hélas, cette situation entre les forces policières, la justice et les membres issus de la diversité à Montréal, à Toronto, continue. Et même en Nouvelle-Écosse, la police, il me semble, a présenté des excuses. Et les Autochtones aussi, hein, faut pas oublier. Ce sont les personnes qui sont dans cette politique de profilage racial, comme on dit. Et oui, bravo à Marceline et à toute sa belle équipe. Et quelle équipe, hein? Ciné Franco, 22 ans déjà, alors on vous attend pour la semaine, pour l'année prochaine. Bravo Marcel. Le bras de fer entre enseignants et le gouvernement de l'Ontario se poursuit. La Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario organise une grève d'un jour, le mercredi 4 décembre, consistant en retrait complet des services. Message de Reflet Salvéo, le réseau local d'intégration des services de santé de Centre Toronto vient de publier la trousse de bienvenue aux services offerts par le RLIS à domicile et en communauté. Et face à la transformation du système de santé en Ontario, Reflet Salvéo a pris l'initiative de développer des documents d'appui reflétant les besoins des francophones en termes de soins de santé pour les équipes Santé Ontario dans les régions desservies. On vous demande d'ailleurs de répondre à un questionnaire afin d'assurer que les recommandations s'alignent bien avec les besoins des patients francophones, des francophones et leurs attentes. Ce sondage vous prendra que 2 minutes. C'est proposé par Reflet Salvéo. Pour accéder au sondage, veuillez envoyer un petit message à info@reflet-salvéo.ca. Loi sur la laïcité, 21 bonnes raisons pour s'établir au Manitoba. Les publicités du Manitoba pour recruter des Québécois déçus par la loi 21 créent de la controverse au Québec. François Legault, premier ministre du Québec, est sorti de ses gonds. Le maire d'Edmonton applaudit la publicité du Manitoba. Vous avez vu ça? Eh oui, les tensions au sein de la Fédération canadienne s'accentuent. Je vous rappelle que l'Ontario a récemment entré dans cette danse et a voté une motion pour dénoncer la loi 21. Relations raciales, un rapport recommandant la réouverture d'un centre de ressources antiracistes à Hamilton ne plaît pas à certains membres du conseil municipal de la ville de Hamilton. Contrôle de rue et profilage racial après Montréal, c'est au tour de la police d'Halifax de s'excuser à la communauté noire. Les contrôles de rue ciblant les noirs sont 6 fois plus que les blancs à Halifax. Incroyable, incroyable. Eh oui, In Libro Veritas, c'est la chronique de Frédéric Bérard dans le journal Métro. Il décrit, tenez-vous bien, madame, monsieur, les régions les plus racistes au Québec et il prend pour exemple sa propre tante. Au restaurant, pas question d'engager des Noirs. Plusieurs de nos clients refuseraient de se faire servir par eux. C'est un article à lire absolument, à vous donner la chair de poule. Et après les gaffes de son ministre de l'Immigration, le gouvernement du Québec misera sur le fait, le gouvernement du Québec plutôt, fait marche arrière. Le Québec, en effet, recrutera des étudiants étrangers au cours des prochaines années pour combattre la pénurie de main-d'œuvre. En Haïti, la mort de Charlot Judy, défenseur des LGBTI, laisse un grand vide. Il a été retrouvé mort dans des circonstances encore inexpliquées en Haïti et la chasse aux homosexuels et victimes du VIH continue malheureusement. Au moment où plusieurs quotidiens, radio, télévision locale au pays traversent une crise des médias, la radio CKGN à Kapuskasing a trouvé une façon bien à elle de survivre. La station de radio communautaire utilise, tenez-vous bien, le bingo pour faire gonfler ses coffres. Voilà une idée peut-être pour CUTFM. Un nouveau programme de notre partenaire, la Fondation Sylvanie Lindor, Action de jeunesse à Toronto pour le changement, une initiative qui donnera aux jeunes Canadiens noirs des disponibilités pour explorer des compétences en entrepreneuriat et leadership. Veuillez vous joindre à l'équipe pour le lancement officiel de ce nouveau projet le samedi 7 décembre à l'hôtel Marriott Centreville, Toronto, situé à 525 rue B à Toronto. Confirmer votre présence est très important. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le gestionnaire du programme par courriel à torontoyouth.actionforchange@gmail.com. Qui dit fin d'année, dit bilan, rétrospective. Ne manquez pas nos émissions spéciales avec des diplomates, des écrivains, des personnalités, des agents de changement, des gens très impliqués dans la communauté d'ici et d'ailleurs. Et nous livrerons des faits saillants qui ont marqué leur quotidien, leur monde, leur vie en 2019. Et dimanche, le 8 décembre, nous aurons le plaisir de recevoir le consul d'Haïti, consul honoraire d'Haïti à Toronto, le docteur Éric Pierre. Et le 15 décembre, Madame Faiza Abdelawi, entrepreneur, experte, conseil, coach. Elle est sur la scène locale, je dirais même canadienne, hein, pendant tout 2018-2019, l'ancienne présidente du MOFIF. Et donc, elle sera des nôtres le 15 décembre, Faiza Abdelawi. Et le 24 décembre, nous allons, pour la 10e fois, je pense, célébrer avec le grand organisateur de French Friday pour ce réveillon des orphelins, réveillon de Noël pour les orphelins francophones le 24 décembre à Toronto. Et Zeb sera des nôtres. Vous souhaitez faire partie de la famille, eh bien, vous nous écrivez. Si vous avez des projets, des activités de fin d'année, envoyez-nous un message immédiatement à potpourri@cut.fm. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité, de votre contribution. CUT 89,5 FM, 33 ans déjà, la radio comme je l'aime. Et je vous rappelle, madame, monsieur, que nous avons eu de la grande visite, surprise d'ailleurs, récemment, de deux représentants du CRTC. Eh oui, très très bonne discussion et ils sont très satisfaits de notre émission, la seule d'ailleurs, émission en langue française sur CUT 89,5 FM. Émission spéciale, 1er décembre 2019, journée mondiale de lutte contre le sida. Le 1er décembre marque la journée mondiale de la lutte contre le sida et malgré les années, le combat n'est toujours pas gagné. En 2019, on entend moins parler du sida, mais pourtant, cette maladie est toujours bien présente chez les Canadiens, les Canadiennes. Selon Statistique Canada, il y avait en 2016 plus de 63 000 personnes atteintes du sida au pays. La majorité des nouveaux cas du VIH sont des jeunes qui n'ont jamais entendu parler de cette maladie. 42% de jeunes gays âgés de 18 à 22 ans disent ne rien connaître au sujet du sida. Une partie de cette population a été complètement détruite de façon catastrophique. Selon les estimations de Statistique Canada, 14% des personnes qui vivent avec le sida ne savent pas telles en sont atteintes. Malgré l'efficacité croissante des traitements et des tests encourageants, il n'existe toujours pas de vaccin contre l'infection. Il est urgent de rester mobilisé. Il faudrait davantage de campagnes, de sensibilisation dans nos médias, nos écoles, nos universités. Il faut absolument cibler les communautés les plus vulnérables, la communauté gay et les groupes des minorités raciales. Quelle est la situation à l'échelle mondiale? On en fait le point avec le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, et toutes dernières statistiques sur le VIH à travers le monde, ainsi que sur le rôle de la société civile pour l'accès aux médicaments de qualité. Place à TV5 Monde, reportage.
D'être avec nous, vous êtes le directeur exécutif d'ONU-SIDA. Alors ONU-SIDA, c'est un programme de l'ONU destiné à coordonner en fait l'action des différentes agences spécialisées de l'ONU pour lutter contre la pandémie de VIH-SIDA. Vous publiez un nouveau rapport très étayé sur la pandémie. On va en parler. Peut-être d'abord quelques mots généraux sur cette pandémie. 37 millions de personnes vivent aujourd'hui avec le VIH ou le SIDA dans le monde. Quelles sont les régions les plus touchées, Michel
Sidibé? Vous savez, il faut continuer à se dire que cette épidémie, elle reste une épidémie africaine. Oui. En grande partie, l'épidémie, elle est là. Le plus grand nombre de personnes infectées se trouvent en Afrique. Mais quand je regarde l'évolution de l'épidémie, c'est la région qui me donne le maximum de satisfaction. Parce que les régions comme l'Europe de l'Est et l'Asie centrale sont les régions où nous avons l'épidémie la plus rapide au monde aujourd'hui. Personne n'aurait cru que la Russie serait la troisième épidémie. Disons, en termes de nouvelles infections, la Russie est le troisième pays au monde avec le plus grand nombre de nouvelles infections.
Comment vous expliquez ça, Michel?
Après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Je l'explique par la simple raison que je crois que quelque part, on a une épidémie qui était très concentrée. Concentré autour des personnes qui s'injectaient la drogue, les gays et peut-être les travailleuses du sexe. Et ces personnes, malheureusement, n'ont pas eu accès aux services de santé. Ces personnes ont été souvent à la marge, exclues. Les politiques et essentiellement les lois étaient beaucoup plus des lois punitives, ne leur permettant pas d'avoir accès aux services. Et quand les personnes n'ont pas accès aux services, les personnes se cachent, les personnes continuent à infecter leurs partenaires, et en infectant leurs partenaires, eh bien, l'épidémie évolue et des personnes, des groupes concentrés vers des populations plus générales. Donc, il y a une possibilité, bien sûr, pour la Russie, pour les pays de l'Europe de l'Est, de contrôler cette épidémie. Les moyens sont là, les ressources sont là, et les capacités sont là, mais il faut repenser cette épidémie de façon large. C'est un problème humain, ce n'est pas seulement une maladie.
Un problème humain et global, donc mondial, Michel Sidibé. Alors, ce que vous nous dites là, bien entendu, c'est inscrit dans ce rapport. Quelles sont les grandes lignes de cette nouvelle étude?
Ce rapport montre encore de façon très claire que la solidarité globale a marché dans le cas de la lutte contre le sida. Oui. Les leaders sont venus ensemble. Et la société civile s'est mobilisée. Le secteur privé a joué son rôle. Aujourd'hui, on donne plus 18 comprimés aux malades. On donne par jour, on donne un comprimé. Et bientôt, on aura une injection tous les 4 mois. Il y a quelques années de cela, et le rapport le montre très clairement, en Afrique du Sud, on avait moins de 90 personnes, je dis en 2001 pour être plus précis, oui. Moins de 90 personnes sous traitement. Aujourd'hui, on a 4,3 millions de personnes sous traitement. Ce pays était connu pour un refus complet, il y avait une conspiration du silence, on ne voulait pas du tout parler de cette épidémie. Aujourd'hui, on a plus de 21 millions de personnes, on a plus de personnes sous traitement que de personnes qui l'attendent.
Fais-moi confiance, abandonne-toi à moi.
Dimanche 1er décembre 2019, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, ayant pour thème « Les communautés font la différence ». Une émission spéciale sur CUT 89,5 FM à Toronto. À l'occasion de la journée mondiale du sida, The Village Pharmacy à Toronto lance un service de dépistage du VIH dans sa nouvelle succursale sur la rue Yonge. C'est la première fois qu'un tel programme sans rendez-vous est offert au sein d'une pharmacie. Beaucoup de francophones apprécient d'ailleurs les services de cette pharmacie parce qu'ils disent que c'est en toute discrétion, ils sont très chaleureux. The Village Pharmacy, madame, monsieur. Certains patients francophones n'ont pas caché leur déception des services de certains organismes francophones. Bien que les traitements s'améliorent et qu'un plus grand nombre de personnes y aient accès, le besoin pour plus de dépistage est encore présent. Malheureusement, l'épidémie du VIH n'est pas terminée. L'Ontario compte environ 800 nouvelles infections au VIH chaque année. Cela se concentre notamment dans le Grand Toronto. Selon le Bureau de la Santé publique de Toronto, 521 cas de VIH y ont été signalés en 2018. Un patient qui vit à Toronto depuis 57 ans a été contaminé par le VIH il y a 20 ans à la suite d'un viol. Il est reconnaissant de l'appui que lui a toujours apporté The Village Pharmacy. Il dit, je cite, « Au début, c'était dur, j'étais dévasté et c'est très peu de gens étaient au courant. Au fil des ans, j'ai reçu du soutien, surtout de l'aide de mon médecin et de Zaïd, qui est propriétaire du Village Pharmacy. Prenez un test en toute discrétion, madame, monsieur, allez vite sur le site www.thevillagepharmacy.ca. Aussi à la une, un deuxième cas mondial de rémission d'un patient atteint du VIH. Malgré un rare cas de rémission, la lutte contre le VIH a toujours besoin d'appui. Et enfin, baisse des nouveaux cas de VIH chez les hommes gays à Montréal. Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
CIUT 89.5, Toronto.
Dimanche 1er décembre 2019, une émission spéciale en partenariat avec Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, l'ONU SIDA, Expertise France et le gouvernement du Canada. La fin du SIDA est-elle en vue? Quelles sont les avancées? Comment utiliser l'autotest VIH? Traitement, prise en charge, recherche, où en est-on? Je vous laisse, madame, monsieur, en compagnie avec ma collègue Caroline Paré, et ses invités en direct de Paris. Caroline Paré est l'animatrice du magazine Priorité Santé RFI.
Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour 3 jours à Amsterdam où se réunissent toute cette semaine scientifiques, politiques et acteurs communautaires impliqués dans la lutte contre le sida. Une conférence internationale, la 22e édition, avec pour thématique « Briser des barrières, construire des ponts ». Cette lutte contre le sida s'articule, on le sait, depuis longtemps autour de cette approche plurielle, médicale, sociétale et juridique. Et aujourd'hui, dans Priorité Santé, pour la première de nos 3 émissions enregistrées ici à Amsterdam, nous vous proposons un état des les lieux, les chiffres, les dernières statistiques sur le nombre de personnes vivant avec le VIH, de personnes traitées et aussi de décès, les traitements disponibles et leur évolution, les politiques et outils de prévention, les initiatives de terrain. Photographie donc de l'épidémie à l'occasion de cette conférence internationale et aussi les travaux engagés pour demain, un aperçu de ce qui est en train de se préparer dans les laboratoires, les expériences engagées, les pistes explorées et toujours sur le terrain, les projets et les études porteurs d'espoir. On va donc parler de la recherche, des dernières publications, mais aussi des impulsions à donner en termes de respect des droits, de lutte contre la stigmatisation et d'accès aux soins. Car la plus brillante et prometteuse des découvertes scientifiques ne peut se transformer en succès qu'une fois mise à la portée de toutes et de tous. État des lieux de la lutte contre le sida à l'occasion de cette 22e conférence de l'IAS Amsterdam, émission réalisée en partenariat avec Expertise France à travers l'initiative 5%, contribution de la France au Fonds mondial pour renforcer l'impact des programmes de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et autour de notre table, quatre invités. Tout d'abord, professeure Françoise Barré-Sinoussi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'actuelle présidente de SIDAction, co-découvreuse du VIH, découverte qui vous a valu en 2008 le prix Nobel de médecine. Avec nous également, professeur Serge Ollier, bonjour.
Bonjour, Caroline Paré.
Vous êtes médecin au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU Trècheville. Vous enseignez à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Des illustrations aussi, avec des expériences, des études de terrain au Congo, projet de recherche que vous dirigez sur les résistances du VIH aux antirétroviraux. Docteur Dominique Mambou Sonde, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin au centre de traitement ambulatoire de Brazzaville. Autre projet, cette fois dans la région d'Abidjan, projet PrEP en Côte d'Ivoire. Vous en êtes le coordinateur national, docteur Camille Anoma, bonjour.
Bonjour Caroline.
Et en Côte d'Ivoire, vous dirigez l'ONG Espace Confiance.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Françoise Barré-Sinoussi, vous avez personnellement été entre 2012 et 2014 à la tête de l'IAS, hein, co-dirigé aussi le comité d'organisation de la conférence jusqu'à l'année dernière. Alors vous êtes plutôt bien placé, on peut le dire, pour nous expliquer, pour dire aux auditeurs pourquoi c'est aussi important, pourquoi finalement c'est toujours utile ce type de très grande conférence internationale sur le sida.
Je pense que c'est la rencontre tous les deux ans, justement, de tous les acteurs impliqués dans cette lutte contre le VIH-SIDA, que c'est le seul lieu, finalement, où tout le monde peut se rencontrer tous ensemble, et que, vous l'avez dit vous-même en introduction, ce qui caractérise justement cette lutte contre le VIH-SIDA, c'est ce lien fort entre les chercheurs, le personnel soignant, le milieu communautaire, les personnes affectées par le VIH-SIDA, les politiques qui sont présents aussi en général dans cette conférence avec la présence d'un certain nombre de ministres. Donc c'est le lieu où on peut faire passer aussi des messages auprès des politiques par votre intermédiaire, parce que les médias aussi sont présents depuis la création de cette conférence internationale sur le sida qui date quand même pour la première, si je me souviens bien, de 1985 à Atlanta.
Alors, conférence pour présenter des travaux, des recherches, on a dit énorme espace de partage, bien sûr, se rencontrer, se mobiliser. Et on va profiter de cette occasion pour s'arrêter sur des chiffres, des projets. C'est vrai qu'on entend dans les journaux parler du sida. On n'a pas toujours toutes les dernières données en tête pour livrer cette sorte de photographie de l'épidémie actuelle. Professeur Serge Ollier, les dernières statistiques mondiales en termes du nombre de cas et ce qui intéresse vraiment aujourd'hui la communauté en termes de nombre de personnes prises en charge.
En termes de nombre de personnes prises en charge, on a à peu près 22 millions, 21 millions 700 000 personnes sous traitement antirétroviral, avec encore de fortes disparités régionales. La majorité des patients est suivie en Afrique de l'Est et du Sud. On a pratiquement 13 millions de patients. On en discutera peut-être plus tard. Il y a un retard en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je pense que ça a été relevé par ONU-SIDA. Et globalement, l'accès au traitement est meilleur, elle se fait de plus en plus. On est encore loin des 90, mais on pense 90, on en discutera aussi. Mais il y a quand même une augmentation exponentielle des patients sous traitement antirétroviral.
Ça veut dire qu'il y a un mieux vraiment sur la prise en charge, mais l'effort doit continuer.
L'effort doit continuer au niveau de la communauté, l'effort doit continuer au niveau surtout du dépistage. La porte d'entrée, c'est le dépistage. Et on a encore de gros obstacles concernant le dépistage. Il y a un an, sur votre antenne, je disais où sont les hommes. La question reste encore posée. Il faut qu'on puisse atteindre les hommes. Et l'autre question qui est importante à poser, il ne s'agit pas de mettre les patients sous le traitement, c'est de les maintenir sous traitement. Et la rétention pose problème dans la majorité des pays. On parle de l'Afrique globalement, l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'Europe de l'Est reste un souci.
Près de la moitié des personnes infectées aujourd'hui traitées par ARV, professeur Françoise Barré-Sinoussi, ça signifie quoi dans leur quotidien? Ça signifie que pour un certain nombre d'entre elles, on va parler concrètement, ils tombent moins malades?
Ah ben, y a pas de maladie. Hein. Je veux dire, voilà. L'infection VIH sous traitement est une condition chronique. Ça n'est plus une maladie en soi. Néanmoins, il faut que ce traitement soit pris absolument tous les jours pendant toute sa vie. Donc, c'est sûr que c'est contraignant pour certains patients. Pour d'autres, finalement, qui n'a pas pris tous les jours quelques médicaments pour traiter une pathologie. Je pense au diabète, par exemple, où les personnes sont traitées tous les jours. Néanmoins, c'est effectivement contraignant. En plus, il peut y avoir, sur le long terme, sous traitement, ce que l'on appelle, nous, les comorbidités non-sida, c'est-à-dire le développement de maladies cardiovasculaires, de cancers, de désordres neurologiques, de troubles du métabolisme, y compris d'ailleurs le diabète que je mentionnais il y a un instant, et que ça, c'est quand même, et ça reste un problème aujourd'hui qu'il nous faut résoudre pour les stratégies du futur dont on parlera peut-être tout à l'heure, parce que pour moi, j'arrive pas à séparer justement ce problème des comorbidités de la recherche de nouveaux traitements du futur, puisqu'on sait que ces comorbidités sont liées au fait que le virus, quelque part, reste toujours présent sous traitement, et que en plus, il y a des anomalies de la défense immunitaire qui restent aussi présentes à bas bruit sous traitement, et que ces anomalies sont probablement aussi à l'origine des pathologies que je viens de mentionner, comme le cancer et les maladies cardiovasculaires ou autres. Donc, tout ça est à prendre en considération tous ensemble. Et puis, on voit bien, justement, la nécessité de passerelles entre les disciplines. On ne peut plus parler de VIH tout seul ou de recherche sur le VIH tout seul. Il faut aussi travailler avec les autres qui travaillent dans le domaine du cancer ou dans le domaine d'autres pathologies.
Une dynamique commune, donc, de recherche et de prise en charge. Vous avez cité rapidement, professeur Serge Ollier, ce 90-90-90. On le rappelle à chaque émission sur le sida. C'est pas grave, on recommence. Donc, 2020, cet objectif fixé. À un moment, on a dit, on va peut-être y arriver, vu les succès, vu les avancées. Aujourd'hui, certains espoirs sont un petit peu freinés, mais on continue quand même pour essayer d'arriver. 90% de personnes sous ARV, on n'y est pas. Et dans certaines régions, on n'y est pas du tout.
Avant d'être sous ARV, il faut être dépisté.
C'est la base.
C'est
le premier des 90.
C'est le premier des 90. Et globalement, lorsque vous regardez, on va dire, en Afrique d'abord et dans le monde entier, on a moins de 70% des personnes qui sont dépistées. Il y a des pays qui font bien, qui ont déjà atteint les 90, mais en fait, ce sont de bons élèves. On aimerait que toute la classe ait plus que la moyenne. Et en Afrique de l'Ouest et du Centre, on a à moins de 50%.
Je vais vous poser cette question peut-être un peu choquante. Pourquoi on est moins bons élèves en Afrique de l'Ouest et du Centre?
Pourquoi on est moins bons élèves en Afrique de l'Ouest et du Centre? Peut-être parce qu'on a eu de moins bons enseignants, on pourrait dire ça. Il s'avère que, je pense l'avoir dit, il faut apprendre à démédicaliser. Tant qu'on n'aura pas la communauté au centre de ce dépistage, on ne pourra pas augmenter le dépistage. Ceux de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud ont fait une approche communautaire d'abord. Et je pense qu'ils sont venus ensuite vers le médical. Si on fait cette approche communautaire, il est clair qu'on pourra augmenter le taux de dépistage. On pourrait parler de financement, je pense qu'on en discutera avec des personnes peut-être plus autorisées, mais on aura beau avoir les plus grandes sommes possibles, on ne sera pas novateur, rien ne va changer. Rien ne va changer. Et ça vaut aussi pour la rétention. Donc, qu'on soit en 2020 à ces chiffres qui ne sont pas satisfaisants, on n'aurait pas eu ces objectifs, peut-être qu'on sera à 30% aujourd'hui. Donc, je crois qu'on a fait de grands efforts. Il faut continuer. On va dire après 10, 10, 10, ce qui reste à franchir pour être à 100%. On a fait de beaux efforts quand même.
Professeur Françoise Barrissine aussi.
Plus de environ 47%, je crois, des nouvelles infections sont quand même dans les populations clés. Et ça, faut quand même pas les oublier, parce que finalement, si on ne peut pas arrêter non plus cette épidémie aujourd'hui, c'est que ces populations vulnérables ne sont souvent pas prises en considération, qu'il y a toujours de la stigmatisation, de la discrimination, et voire des méthodes répressives dans un certain nombre de pays, y compris d'ailleurs sur le continent africain.
Un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest pénalisent par exemple l'homosexualité. Donc, tant qu'on ne peut pas accéder à ces personnes, elles ne peuvent pas vivre à visage découvert, c'est forcément difficile d'aller vers elles, même si les communautés, les associations font un travail de terrain pour justement les atteindre.
Je ne pense pas qu'on pénalise. Je pense qu'on stigmatise, qu'on n'autorise pas. Camille Anouma pourra en dire plus, mais je ne connais pas de pays d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui pénalise en tant que tel.
Le Sénégal. Je ne polémique pas, je cite un fait.
Ce qui se passe aujourd'hui, au-delà de cette population homosexuelle qui n'est pas le véritable driver de l'épidémie en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le driver, je ne sais pas, en bon français, c'est ceux qui conduisent l'épidémie. En fait, nous avons encore une population, une augmentation des contaminations chez les jeunes filles. Il ne faut pas se tromper de cible. De 15 à 25 ans, on voit qu'il y a une véritable épidémie de ces jeunes qui ne sont pas faciles à atteindre et qui sont contaminés majoritairement par des adultes qui ne se dépistent pas. Donc il ne faut pas vraiment se tromper de cible. Il y a cette population d'homosexuels, de travailleuses du sexe, de toxicomanes, qu'on n'arrive pas à bien prendre en charge. On a de bons exemples tout à l'heure, qu'on devrait pouvoir dupliquer et passer à échelle. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, dans nos pays, il y a une épidémie chez les jeunes filles. Et ça, les chiffres sont clairs. Hein.
Et c'est l'importance aussi de bien avoir la photographie des épidémies en fonction des pays, en fonction des régions et des situations spécifiques. Je vous donne la parole tout de suite. Vous voulez réagir justement, on citait peut-être l'Afrique de l'Ouest. Docteur Camille Anouma, vous vouliez réagir?
Oui, je pense que c'est plusieurs problèmes en même temps. Professeur Serge Rollet a raison d'évoquer la problématique des jeunes filles. Mais je crois aussi que les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes dans nos pays ont une contribution assez importante en matière d'incidence du VIH. Clairement, sur les quelques études qui ont été faites, c'est quand même un peu plus de 6% personnes années. Ensuite, à cause justement de ces problèmes de stigmatisation, de discrimination et des difficultés aussi à avoir accès aux soins, il y a que dans ces populations, il y a beaucoup aussi de bisexuels. Donc on n'est pas capable aujourd'hui dans nos différents pays de chiffrer de façon assez précise le nombre de personnes ayant des rapports homosexuels. Je ne dis pas le nombre de personnes étant homosexuelles, je dis ayant des rapports homosexuels. Donc ça aussi, ce sont des éléments à prendre en compte qui jouent une grande importance dans la dynamique de l'épidémie.
Alors, on va revenir sur la question qu'on abordait tout à l'heure, davantage de personnes sous ARV, ces fameux objectifs des 3,90. On a parlé parmi justement ces objectifs affichés d'avoir ce traitement durable, une bonne observance, traitement adapté, et aussi des personnes qui supportent bien ces traitements, qui ne résistent pas à ces traitements, puisque l'organisme peut éventuellement développer des résistances. On en parle avec vous, docteur Dominique Mamboun-Sondé. Je disais tout à l'heure, vous êtes chef du projet de recherche sur les résistances du VIH aux antirétroviraux au Congo-Brazzaville. Votre projet s'appelle Résistance. Quand est-ce qu'il a été initié?
Alors, en fait, il y a l'initiative 5% a lancé un appel à projet en 2015, dont l'objectif était justement de regarder cette surveillance des résistances chez les personnes qui n'ont jamais pris de traitement, mais aussi chez les personnes qui sont sous traitement. Donc, le projet a été actuellement mis en œuvre par la Croix-Rouge française. Ça a démarré depuis 2017, en début 2017. Et l'objectif, c'est justement de regarder est-ce que chez les personnes qui démarrent le traitement, il n'y a pas déjà un certain nombre de personnes qui sont résistantes à ces médicaments. C'est ce qu'on appelle les résistances primaires ou transmises. Mais aussi, chez les personnes qui sont sous traitement, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'observance? Est-ce qu'il n'y a pas des résistances qui apparaissent? Le professeur Éolier a bien parlé des 3,90, mais les 3,90, pour les atteindre, il faut déjà que les traitements marchent. Donc, c'est très important de s'assurer dans
puisque
les pays.
Puisque le dernier de ces 90, c'est la, charge virale nulle. Donc, voilà. Si le médicament ne marche pas, la charge virale ne va pas être nulle.
Voilà, forcément. Effectivement. Donc, l'OMS est très regardante là-dessus. C'est pour ça que les pays doivent absolument faire des efforts pour étudier ces prévalences et justement pour adapter les protocoles thérapeutiques qui se mettent en œuvre dans ces pays-là.
Françoise Barré-Sinoussi, je me tourne vers la chercheure. Quand on dit résistance primaire, pour que nos auditeurs comprennent bien, comment ça se fait que le corps qui reçoit un médicament qu'il ne connaît pas soit déjà résistant ?
Quand quelqu'un est porteur du VIH, il n'est pas porteur d'un seul virus. Il est porteur de sous-populations de virus, tous légèrement différents les uns des autres. Et parmi ces populations de virus, il y en a certaines déjà qui sont résistantes au traitement. Dès l'instant où le traitement est arrêté, c'est elles qui vont prendre le dessus. Et donc, c'est celles-là qui vont apparaître majoritairement chez les patients qui arrêtent leur traitement, malheureusement.
Et c'est pour ça, docteur Dominique Mamboud-Sondé, que dans votre projet, vous, en quelque sorte, hein, j'ai parlé trivialement, vous décortiquez le virus. Ça s'appelle le génotypage. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors, en fait, c'est un système de séquençage. On va regarder les gènes qui sont sur le virus et regarder quels sont les gènes, les mutations qui ont apparu sur ce virus. Et il y a des mutations dont on sait que ça va générer une certaine résistance à certains médicaments. Donc, quand vous faites ce génotypage chez un patient, vous pouvez voir chez le patient quel médicament marche et quel médicament ne marche pas. Donc, voilà le principe. Pour faire simple, du génotypage qu'on fait chez les patients.
Vous dites pour faire simple, mais c'est une technologie très complexe.
Absolument.
Mais en même temps, cette technologie complexe, on peut dire, elle ne sert à rien si les personnes ne peuvent pas suivre l'évolution de leur charge virale. Et c'est aujourd'hui encore en Afrique un énorme problème, être capable de régulièrement voir où on en est avec la maladie.
Effectivement, c'est la première des choses, c'est effectivement la charge virale, parce que pour savoir si le traitement marche ou ne marche pas, il faut déjà qu'on fasse la charge virale. Et d'ailleurs, dans les indicateurs d'alerte précoce de l'OMS, on surveille également est-ce que dans les centres de prise en charge, la charge virale est régulièrement réalisée. C'est un examen essentiel et je pense que, d'ailleurs, à la conférence, on en parle beaucoup. Il faut vraiment que tout le monde fasse des efforts pour qu'un patient ait au moins une charge virale par an. Cela va déjà permettre de savoir à quel moment le traitement ne marche plus et prendre rapidement des décisions thérapeutiques pour ces patients.
Professeur Serge Héolier, je voudrais du concret avec vous. Pourquoi les gens n'arrivent pas à faire régulièrement une charge virale ?
La charge virale est un outil merveilleux. J'ai la chance d'avoir Françoise Barré-Sinoussi en face de moi. Et je crois qu'on a tous plaidé pour que la charge virale soit l'outil de référence pour l'évaluation du traitement antirétroviral. Mais l'outil virologique n'a pas suivi la mise à disposition des médicaments. Et les cliniciens, quand ils demandent un examen, ils veulent avoir le résultat en temps réel, au plus tard le lendemain. Je fais un parallèle avec les CD4. On a eu des CD4 qu'on pourrait dire au lit du malade, qu'on appelait point of care, en bon français. Et en demandant le CD4, l'annulation des CD4, nous avions le résultat dans la journée ou dans l'heure. Aujourd'hui, pour avoir une charge virale, le temps de réception de la charge virale est minimum de 2 semaines à 6 mois. Donc je répète, et je le dis devant les auditeurs et à ceux des laboratoires qui m'écoutent, la charge virale n'est pas un outil pour le garder au laboratoire. Le résultat de la charge virale n'est pas un outil pour le donner à celui qui gère la base de données. Il faut l'amener aux cliniciens, il faut l'amener aux patients, parce que le patient veut savoir quel est son résultat. Nous demandons tous des charges virales. Mais si on n'a pas prévu la quantification des tests de charge virale en fonction de la population qu'on a sous traitement, si on n'a pas prévu le deuxième test de charge virale pour contrôler si le patient n'est pas observant, à ce moment-là, on va se retrouver en rupture de charge virale et nous, les cliniciens, on se dira, bah, apparemment, cet outil n'est pas vraiment, il fait pas utile. Donc, il faut que, entre cliniciens et dans le système de santé de prise en charge d'infection à VIH, on réduise les délais de rendu des résultats.
Ça veut dire que c'est un travail commun, c'est vraiment quelque chose, une amélioration, mais qui peut être aussi du côté du matériel, mais aussi de la façon de travailler.
C'est tout un système.
Professeur Françoise Barré-Sinoussi.
Le développement de tests de charge virale qui sont de plus en plus simplifiés, qui peuvent être utilisés au lit du malade. Et tout cela, ça commence à faire bouger les choses. Mais c'est vrai ce que dit Serge, il y a un retard immense dans la mise en œuvre de la charge virale. Alors pourquoi aussi des fois c'est si long ? C'est parce que pour faire un test de charge virale, si on utilise un test, c'est pour faire beaucoup de charges virales à la fois. Et donc, on attend, et les gens de laboratoire attendent d'avoir suffisamment de charges virales à faire, parce que sinon, ça va coûter beaucoup plus cher, et le test, il va être utilisé pour un patient, alors que, en fait, il peut être utilisé, je schématise, pour 100 patients. Donc, il faut adapter tout ça, et puis, il faut faire des pressions qui n'ont pas été suffisamment faites, à mon avis, sur les compagnies de diagnostic qui commercialisent ces charges virales.
On a travaillé sur les médicaments, mais pas forcément là-dessus.
Mais alors, moi je dis à mes petits amis activistes, mais qu'est-ce que vous faites? Il ne faut pas seulement cibler ceux qui vendent les médicaments, il faut aussi cibler ceux qui vendent les réactifs de laboratoire.
Toute la chaîne. Toute la chaîne. Alors justement, l'objectif avec les traitements, c'est bien de rendre cette charge virale indétectable. Ça a été redit hein, ici à Amsterdam. Charge virale nulle, contamination nulle. Hein, c'est assez mathématique, assez simple.
U égale U.
Voilà, U égale U, c'est la formule magique. Ce qui nous amène, professeur Françoise Barressini aussi, tout à l'heure vous l'avez évoqué très rapidement, à évoquer l'un des grands sujets actuels de la recherche, les cellules réservoirs. Pour l'auditeur de Priorité Santé, pour moi-même, explication simple, s'il vous plaît.
L'explication simple, c'est la suivante. J'évoquais tout à l'heure que le virus, y compris sous traitement, même si on ne le détecte pas dans le sang, en fait, il est toujours là. Et il est caché dans le matériel génétique des cellules. Et ces cellules, c'est des cellules qui dorment, qui ne se multiplient pas ou peu. Et donc, ce virus, il est là très bien. Et si on arrête le traitement, cette cellule, elle est réveillée et le virus, il ressort. Alors, cette cellule où il dort, on l'appelle le réservoir. Ces cellules qui dorment, elles sont partout dans le corps. Hein. On parle du sang, souvent. Mais en fait, elles sont présentes au niveau des tissus génitaux, elles sont présentes au niveau des ganglions, elles sont présentes au niveau de l'intestin, elles sont y compris au niveau du cerveau. Donc c'est un gros problème, ces réservoirs, justement pour aller vers un traitement curatif, ou au moins d'un traitement qui permettrait d'être utilisé seulement pendant un temps, et que la personne contrôle par elle-même son infection.
Parce qu'aujourd'hui, quand on est sous ARV et si on arrête, eh bien, ce qui est dans ces petits réservoirs, ça ressort, je sais faire des images un petit peu, voilà. Et ça recommence.
Ça recommence, la cellule se réveille, le virus se réveille au sein de la cellule, et hop, il se réplique à nouveau, il se multiplie à nouveau.
Professeur Barressini aussi, c'est quoi les stratégies aujourd'hui pour essayer d'atteindre ces fameux réservoirs?
Il y en a plein, parce que pour l'instant, on est complètement dans l'espace de la recherche. Il y a justement essayer de réveiller, d'activer ce virus qui dort et tout de suite d'y ajouter des stratégies qui vont tuer la cellule où il va être réveillé. Parce que si on réveille et qu'on fait rien, le virus il va se multiplier partout. Donc il faut la tuer immédiatement. Donc on combine des molécules qui sont des drogues avec d'autres stratégies qui stimulent la défense immunitaire. Puis il y a des stratégies intéressantes à base d'anticorps neutralisants hyperactifs que les chercheurs ont identifié ces dernières années et qui semblent être une bonne approche justement pour à la fois bloquer le virus et à la fois tuer la cellule. Ça, c'est quand même une approche intéressante. Il y a des approches qui sont utilisées dans le domaine du cancer qui sont aussi là quelque chose d'intéressant. On s'est aperçu que les cellules réservoirs, je mentionnais, elles ont sur leur surface des protéines que l'on retrouve sur les cellules cancéreuses et qui sont justement les protéines que l'on cible, les nouvelles thérapeutiques du cancer ciblent ce type de molécules. Donc il y a des études en cours chez des patients, pas seulement VIH positif, mais aussi chez des patients qui malheureusement développent des cancers et qui ne répondent pas aux thérapeutiques classiques du cancer. Eh bien là, on utilise ces nouvelles thérapeutiques, on regarde quel va être l'effet sur les réservoirs. Est-ce qu'on va diminuer la taille de leurs réservoirs viraux? Est-ce que l'on va récupérer leur défense immunitaire? C'est ce type d'études qui sont en cours. Vous voyez ça. Et puis la thérapie génique aussi, j'ai oublié de mentionner. Enfin bref, c'est très très large en ce moment, mais il faut faire ça. Il faut faire ça pour essayer de trouver quelle va être la meilleure stratégie, au moins pour avoir une rémission durable.
Alors pour poursuivre sur ce chapitre de la recherche, professeur Serge Ollier, bien sûr, quand on parle du sida, on pense vaccin. Il y a eu des dernières publications dans la revue The Lancet, essais conduits en Afrique du Sud. Vous pouvez nous parler de ces dernières pistes, hein. On ne va pas dire avancées, on ne va pas dire succès, on va dire pistes.
Moi, je suis dans la stratégie thérapeutique réellement, dans la prise en charge des patients. Nous avons tous un groupe au niveau français de l'ANRS, au niveau de l'INSERM, où on discute des pistes vaccinales. Il s'avère que les chiffres que l'on a sur ces stratégies vaccinales, les résultats que l'on a, sont pas au niveau que l'on voudrait, mais ça vient pour compléter la prévention biomédicale. C'est-à-dire que ça viendrait en rajout de ce que l'on a comme tout élément de la prévention biomédicale. On parle de la PrEP, on parle des moyens de contraception mécanique. On n'est pas des taux de protection vaccinale qui pourrait nous permettre de le recommander en approche santé publique. Les publications, elles sont faites pour encourager, elles sont faites pour montrer qu'on a des résultats probants. Je donne un exemple qui est assez simple où il faut toujours utiliser les résultats de la recherche vaccinale. C'est le vaccin contre le palu. On a un taux de protection qui est aux alentours de 50-60%. Mais lorsqu'on combine avec tous les éléments de la prophylaxie contre le palu, on arrive à contrôler le paludisme. Mais pour le moment, on n'en est pas là.
Pas le vaccin que les gens attendent, espèrent en tout cas.
Professeur François Brisson aussi. Dans le domaine de la recherche vaccinale qui sont intéressantes, j'évoquais très rapidement pour les traitements du futur, les anticorps à activité hyper neutralisante. Ben, ces anticorps, on apprend qu'ils fonctionnent pas seulement et probablement pas par cette activité justement neutralisante, mais par d'autres mécanismes. Et il y a des essais vaccinaux qui sont en cours aujourd'hui avec ce type d'anticorps, avec la volonté de vouloir provoquer, induire ce type d'anticorps. Et j'en parlais avec un collègue américain hier. Il y a des résultats d'essais vaccinaux qui vont sortir dans 18 mois à peu près. Donc, alors attendons.
On va attendre. Alors des pistes de recherche, d'action, extension des traitements par antirétroviraux, à la croisée des deux pour réduire les risques, c'est toujours quelque chose d'essentiel. Traitement préventif anti-VIH, prophylaxie pré-exposition, c'est la PrEP hein, en abrégé. On va sûrement dans la suite de l'émission utiliser simplement ce terme de PrEP, un outil pour limiter les nouvelles contaminations. Et on peut le dire, hein, docteur Camille Anoma, ce dispositif, cette PrEP, eh bien ça marche. Vous dirigez l'ONG Espace Confiance, vous travaillez depuis près de 25 ans auprès des populations clés dans la région d'Abidjan. On va d'abord rappeler, on en a parlé tout à l'heure, qui étaient ces populations clés. La PrEP, ça se passe comment avec justement ces personnes que vous essayez de cibler?
Alors ce que je dois dire, c'est qu'on participe à une étude multicentrique avec un certain nombre d'associations en Afrique, donc au Mali, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d'Ivoire. Et en fait, cette étude, c'est avec une question essentielle, c'est comment mettre en œuvre une offre de PrEP adaptée aux hommes ayant des rapports sexuels avec aux hommes dans le contexte de nos pays. Et donc, cette étude, c'est l'acceptabilité et la faisabilité de la PrEP chez les HSH au sein d'offres de prévention combinées dans donc les associations de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, les questions qu'on s'est posées, c'est simplement, est-ce que la PrEP, donc, est utilisée dans les pays du Nord? Est-ce que cette PrEP est désirable dans les pays du Sud, surtout sur des populations stigmatisées, donc comme je disais tantôt, avec une incidence et une prévalence assez élevées? Donc, est-ce que cette PrEP, elle est acceptable? Est-ce que les populations sont capables d'avoir une bonne observance à la PrEP, aussi au dépistage trimestriel VIH, parce que c'est important de dire que sont mis sous la PrEP des personnes quand même qui sont séronégatives, donc avec un suivi trimestriel en ce qui concerne le VIH. Est-ce qu'il y a bonne tolérance, quelle que soit la méthode, que ce soit la méthode quotidienne, que ce soit la méthode à la demande?
Ça veut dire, vous dites quotidienne à la demande, il y a des personnes qui vont prendre ça tous les jours comme un médicament,
voilà.
Et d'autres, si elles savent qu'elles ont un rendez-vous, une aventure qui se prépare, on le prend avant le rapport.
Exactement.
Voilà.
Et donc, quelles seraient aussi les autres évolutions en ce qui concerne les autres méthodes de prévention, utilisation des préservatifs, etc. L'incidence des IST dans ces groupes, parce que c'est quand même un élément important, et je pense que les études avant les nôtres ont quand même démontré que la PrEP aussi, la présence de la PrEP faisait qu'on avait aussi des incidences un peu plus élevées au niveau des IST. Donc c'est important de pouvoir les surveiller au niveau de nos études. L'efficacité dans la vraie vie, donc de cette PrEP dans nos conditions, c'était démontré déjà efficace dans les pays du Nord, et éventuellement aussi la surveillance de résistance dans ces différents groupes. Et puis le coût réel de cette PrEP et aussi le coût efficacité de la méthode. Après, il y a un certain nombre de facteurs qui sont favorables. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, le Programme national de lutte contre le sida a commencé à engager des discussions pour mettre en place un guide sur l'utilisation de la PrEP. Je sais aussi que récemment, l'OMS a donné des directives en ce qui concerne donc l'utilisation de la PrEP pour les médecins prestataires, pour les pharmaciens, pour les conseillers communautaires et même pour les utilisateurs de la PrEP.
Dimanche 1er décembre 2019, journée mondiale de lutte contre le sida, ayant pour thème « Les communautés font la différence ». Hommage, commémoration, brunch, verre de l'amitié, témoignages, place aux femmes, aux immigrants, aux transgenres, aux jeunes, stigmatisation, discrimination, innover pour combattre les préjugés. L'autotest, qu'est-ce que c'est? Les avancées dans le monde et la fin du sida en vue, peut-être. Découvrez toute notre programmation complète sur www.popourichaud.com. Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires et toutes les personnes vivant avec le VIH qui ont participé à cette édition spéciale. Merci de votre grande générosité et vos dons. Popourichaud, CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
This is Ken Stauer, station manager for CIUT FM. At this time, we are still looking to reach our goal of $100,000 by December the 31st. You may help us get there by making your financial donation by simply going to www.ciut.fm. CIUT FM is a registered charitable organization, so you will be sent a tax receipt. Your name will also be entered into the grand prize draw that includes return airfare to Iceland, courtesy of Iceland Air. Thank you in advance for your support for the radio station that keeps on delivering the sound of your city each and every day. CIUT FM 89.5.
Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city. Gilles Moreau.
Dans l'actualité, l'Irak plongé dans la crise politique. Le Parlement examinait ce matin la démission du gouvernement, démission qu'il a acceptée. Le président de l'Assemblée va demander au président de la République de désigner un nouveau Premier ministre. Ce matin, avant l'ouverture de la séance, un nouveau manifestant a été tué par balle dans la capitale Bagdad. Ailleurs, les manifestations se sont transformées en procession funéraire jusqu'à Mossoul. Mossoul, la grande ville sunnite du Nord, où les étudiants vêtus de noir se sont rassemblés en mémoire des manifestants tués ces derniers jours. Encouragés par leur brillante victoire aux élections de dimanche dernier, les manifestants pro-démocratie de Hong Kong sont de retour dans la rue une semaine après cette journée de mobilisation à valeur de test pour les manifestants, tout comme pour les autorités qui ont autorisé 3 rassemblements ce dimanche. Les corps des 13 soldats morts dans un accident d'hélicoptère au Mali sont arrivés en France ce matin. Le président Macron présidera une cérémonie demain après-midi. Ce sera aux Invalides, en présence de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. En ce 1er décembre, l'Allemande Ursula von der Leyen prend officiellement ses fonctions à la présidence de la Commission européenne. Elle succède au luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Une cérémonie a lieu à l'heure où je vous parle à Bruxelles. En France, nous sommes à J-4 de la grande journée de mobilisation syndicale contre la réforme des retraites. Ce sera jeudi prochain, 5 décembre. Les grèves s'annoncent massives, en particulier dans les transports. Le gouvernement s'y prépare. Il se retrouve au grand complet cet après-midi autour du Premier ministre Édouard Philippe. En Pologne, les très contestées réformes de la justice mobilisent l'opinion. Un rassemblement est prévu cet après-midi à Varsovie devant le ministère de la Justice. Ailleurs dans le pays, d'autres manifestations devraient attirer des milliers de personnes. Les Philippines ont commencé à évacuer des milliers de personnes en prévision de l'arrivée d'un puissant typhon. Le typhon Kamuri devrait frapper demain soir ou bien mardi matin l'archipel avec des rafales de vent jusqu'à 170 km/h. Un résultat de handball, nouvelle déception pour les Françaises au Mondial. Après avoir été battues par la Corée du Sud, elles n'ont pu faire mieux ce matin que match nul 19-19 contre le Brésil. Les Bleus, tenantes du titre, gardent toutefois une chance de qualification pour le tour principal.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com. Et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
L'actualité de la santé maintenant à 6h13 avec le docteur Kirzek. Bonjour Gérald.
Bonjour Samuel.
Alors aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Dites-nous d'abord Gérald, quels sont les derniers progrès en matière de traitement ?
Ce sont les fameuses trithérapies qui permettent de dire aujourd'hui, ça fait des décennies maintenant qu'on les connaît, mais elles se sont améliorées, ça permet de dire aujourd'hui qu'on peut être porteur du VIH, du virus du sida, et ça ne veut plus dire qu'on est condamné. Notamment quand on est capable, grâce à ces trithérapies, d'avoir une charge virale indétectable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la quantité de virus qui n'est plus détectable dans l'organisme, et ça permet d'espérer une espérance de vie de plusieurs décennies. L'autre espoir et l'autre progrès, c'est même plus un espoir, c'est un progrès, c'est la réalité, c'est pour les futures mamans. On peut être séropositive et mettre au monde un enfant qui est séronégatif avec des trithérapies qui sont de mieux en mieux tolérées, qui sont de moins en moins contraignantes. Alors, on ne peut pas dire qu'on en guérit, mais vraiment, on vit avec le VIH.
Et est-ce que les...
Moi maintenant, donc je pense que nous avons perdu assez de temps. Je t'aime, tu m'aimes, pour moi c'est évident. Stop le préservatif et prenons du bon temps. Cesse de me dire dès que je m'approche de toi.
N'y pense même pas.
Fais-moi confiance, abandonne-toi à moi.
N'y pense même pas, n'y pense même pas. Le préservatif nous protège, toi et moi. N'y pense même pas. Comment oses-tu me demander ça? N'y pense même pas.
Et oui, émission spéciale en partenariat avec l'ONU SIDA et RFI en ce dimanche 1er décembre 2019. Journée de lutte contre le sida, un événement planétaire. Les communautés font la différence, c'en est le thème de cette année. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, CUTFM lance un focus dédié à cette maladie qui, malgré les progrès accomplis par la recherche, continue sa progression partout dans le monde. Et cette fin de semaine, nous avons recensé des milliers d'événements organisés partout dans le monde. La journée mondiale du sida, qui a lieu le 1er décembre, c'est aussi l'occasion de commémorer ceux et celles qui nous ont quittés et de sensibiliser le public au sida et à la pandémie du virus du VIH. On a entendu parler de l'autotest. D'ailleurs, un nouveau service existe à Toronto. Et qu'est-ce que c'est ? Je vous rappelle que le Biolytical Lab, qui est un leader mondial des tests rapides du VIH, plus connu pour the HIV Self-Test ou l'autotest VIH, a lancé des pharmacies, ce produit plutôt dans des pharmacies au Canada, en Europe. Et je pense même que c'est gratuit en Colombie-Britannique, à Vancouver. Et avec une piqûre d'un doigt et une seule goutte de sang, on peut avoir un résultat précis à plus de 90% et instantané. C'est incroyable, hein? Donc, il y a matière à investir dans ce domaine. On continue, madame, monsieur, avec notre ami à Radio France Internationale, Caroline Paré, qui est l'animatrice du magazine Priorité Santé et ses invités. Et justement, on parle de l'autotest. Et c'est bien fait.
Docteur Anna-Laura Rose, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable technique dans l'équipe stratégique d'UNITED. Alors, UNITED finance des projets, un projet d'autotest. Ça fait partie des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Une question pratique pour commencer. À quoi ressemblent ces autotests ?
Tout le monde probablement connaît un test de dépistage de grossesse. En effet, l'aspect physique est très très proche. Il s'agit d'une petite cassette qui permet de faire un test. Cette fois-ci, c'est pas pour la grossesse, c'est pour le VIH. La spécificité de l'autotest est que c'est un test de dépistage pour le VIH que la personne peut faire soit tout seul ou avec la personne de son propre choix, dans le contexte qu'il ou elle décide et au moment qu'il ou elle décide.
Quel fluide corporel est testé ?
Il y a des tests qui utilisent la salive et des tests qui utilisent le sang.
Et donc la personne doit en quelque sorte se piquer, un peu comme on fera avec une petite aiguille, extraire une goutte, un peu comme ça se fait pour le paludisme, pour la goutte épaisse, pour justement prélever cette petite quantité de sang procéder au test.
C'est exact. On utilise une petite aiguille pour poncer le bout du doigt, normalement, pour ensuite recueillir une goutte de sang. C'est pas grand-chose, c'est vraiment une petite goutte qui suffit pour réaliser le test.
Alors, ce qui est important, c'est d'étendre ces dépistages, ces autotests. On parle de démédicalisation. Est-ce que c'est sécurisant pour une personne, justement, de faire un test aussi important, tout seul, sans un médecin?
Alors, c'est une question que nous nous sommes posée pendant très longtemps. Et il faut dire qu'il y a encore quelques années, il y avait une grande partie de la communauté qui se posait ces questions. Et on avait vraiment des inquiétudes sur la réaction que les personnes qui réalisent ce test pouvaient avoir en découvrant, par exemple, son infection par le VIH sans être dans un cadre médicalisé. Aujourd'hui, par contre, nous avons des études, des résultats qui nous démontrent qu'en fait, avec une bonne information et un soutien qui peut se faire aussi via l'information qui est contenue dans le test, ce test ne pose aucun risque supplémentaire et on ne voit pas des risques particuliers qui sont associés aux résultats.
D'autant plus que ce test, on peut le faire tout seul, mais surtout, on peut le faire avec des membres de la communauté, avec des acteurs de terrain qui sont là pour vous aiguiller et après, éventuellement, vous prendre en charge d'un point de vue psychologique au moment de la réalisation, si jamais eh bien, ce diagnostic est positif.
Tout à fait. Je pense que c'est important de souligner que l'autotest ne veut pas dire que la personne le réalise complètement seule,
c'est
de
pas
manière
un solo test.
Isolée. Tout à fait, de manière isolée. C'est vraiment un test qui a pour but de venir se rajouter aux approches de dépistage qui existent pour compléter l'éventail des différentes approches, mais peut se faire effectivement tout à fait avec la communauté et ne se fait pas en isolation complète.
Alors, il y a une volonté générale, il y a des projets de terrain. Un projet sur lequel vous avez un petit peu de recul en Afrique australe, projet STAR, et un projet là qui est lancé pour l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement au sujet de ces deux approches différentes dans le temps et dans la géographie?
Il nous semblait une évidence de faire si que l'introduction de l'autotest dans les pays du Sud se fasse le plus facilement et le plus rapidement possible. C'est pourquoi en 2015, déjà, UNITAID a décidé d'investir dans ce domaine, a été heureux de pouvoir soutenir un projet qui s'appelle l'initiative STAR, qui est porté par des partenaires, à l'occurrence le partenaire principal est PSI. Ce projet en 2015 a débuté en 3 pays d'Afrique subsaharienne, le Malawi, Zambie et Zimbabwe. Ensuite, il a été étendu à l'Afrique du Sud, Eswatini et le Zoutou.
Lesotho, Afrique du Sud et Swaziland.
Voilà. Et nous avons vu les premiers résultats sont extrêmement encourageants. Nous avons vu que l'autotest arrive effectivement à dépister davantage les hommes. C'est une population qui est moins dépistée. Et on voit qu'effectivement, il y a un pourcentage qui est plutôt significatif de personnes qui n'ont jamais testé pour le VIH avant et qui peut-être n'auraient pas testé parce que le centre de santé n'était pas le lieu approprié pour eux. Et nous souhaitons désormais utiliser ce résultat de ce pays que je viens de citer pour aussi accélérer l'introduction de l'autotest en Afrique de l'Ouest. Et nous avons pour cela lancé un projet qui vient d'être signé ces jours-ci. Nous sommes vraiment heureux de travailler avec nos partenaires et amis Soltis et IRD qui vont travailler dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, où vraiment il y a une urgence d'essayer de trouver ces personnes qui sont infectées par le VIH et qui ne le savent pas. Et nous pensons que vraiment l'autotest est une grande partie de cette solution.
Merci beaucoup, docteur Anna-Laura Rose. Je rappelle que vous êtes responsable technique dans l'équipe stratégie d'UNITAID.
Abidjan, 97.6 FM.
Et on se retrouve dans Priorité Santé pour poursuivre cet état des lieux à l'occasion de la conférence internationale d'Amsterdam sur le sida, toujours en compagnie de nos 4 invités ici au centre de presse. Docteur Camille Anoma, on vient de parler de ces autotests, de la PrEP, ce que vous faites en Côte d'Ivoire, votre expérience. On voit vraiment que les approches, les expériences s'attachent au mode de vie des populations. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été permis par cette conjonction entre médecins et acteurs communautaires.
Oui, tout à fait. Nous, on salue, je pense, l'arrivée de l'autotest en Côte d'Ivoire parce que, comme on le disait dans cette émission, on a quand même encore une grande frange de personnes vivant avec le VIH qui ignorent leur statut. Donc, on pense que l'autotest pourrait être donc un moyen pour pouvoir toucher ces personnes et donc faire en sorte que, au niveau des 90, au niveau de la Côte d'Ivoire, cela puisse être amélioré. Au niveau communautaire, il y a déjà un gros travail qui est fait en matière de dépistage dans les communautés. Je pense que la Côte d'Ivoire, très tôt, a accepté de démédicaliser de ce point de vue-là. Donc, il y a des acteurs communautaires qui ont des formations, qui vont dans les communautés pour offrir donc ces services. Et donc, bien sûr, l'autotest sera un moyen supplémentaire pour pouvoir toucher davantage de personnes.
Tout à l'heure, avant cette entretien, on a parlé, docteur Françoise Barré-Sinoussi, des questions de stigmatisation, sans parler toutefois de répression, on parle de stigmatisation. C'est pas parce qu'on est chercheur qu'on n'est pas préoccupé, justement, de pouvoir voir le fruit de notre travail arriver jusqu'à sa cible. C'est quelque chose en tout temps d'essentiel, surtout pour le sida peut-être.
Bon, pas seulement, à mon
pour
avis,
toutes les maladies.
Le sida, c'est quelque chose justement à développer dans d'autres pathologies. Mais pour le VIH-Sida, ça a été la première fois et je pense que c'est quelque chose à développer. Effectivement, pour un chercheur, quel qu'il soit, il essaye d'apporter des connaissances, il essaye, à travers ses connaissances, d'apporter de nouveaux outils, que ce soit pour le dépistage, que ce soit pour la prévention ou le traitement. Et si on voit qu'au bout du terme, ces outils ne sont pas accessibles aux personnes concernées, forcément, on se dit, c'est pas possible, on a perdu notre temps, notre argent. Et surtout, on constate nous-mêmes que les personnes elles-mêmes continuent à mourir. C'est inacceptable quelque part. Donc voilà comment les chercheurs dans le domaine du VIH-Sida sont devenus, pour certains d'entre eux, un petit peu activistes.
Des militants aussi, hein.
Totalement militants. Parfois même plus militants aujourd'hui que les activistes eux-mêmes, je dis souvent.
On vous entendait tout à l'heure rappeler un petit peu à la révolte avec les laboratoires. C'est un petit peu ça, c'est de dire, nous on a besoin de ça aussi. En tant que chercheur pour avancer, il faut que la société suive.
Il faut que la société civile suive derrière. Il faut effectivement qu'on travaille complètement tous ensemble, comme on a su le faire réellement dans le domaine du VIH-Sida. Il ne faut pas que ça s'arrête. Et pour moi, il faut même que ça s'étende à d'autres pathologies. L'hépatite C, certainement en premier, puisque là, il y a des traitements qu'on peut guérir, mais aussi la tuberculose, mais aussi les cancers, mais aussi bien d'autres pathologies qu'on a évoquées durant cette émission.
Professeur Serge Ollier, c'est aujourd'hui une dynamique essentielle. Essentiel justement d'associer d'autres maladies, ces co-infections, maladies chroniques, pas seulement, autres maladies infectieuses. Il faut avancer tous ensemble, sida compris, à tout cet ensemble de pathologies.
Oui, parce que je ne crois pas au VIH-log, spécialiste du VIH. On prend en charge toutes les pathologies. Il n'y a pas un patient qui vient me voir qui a de la fièvre parce qu'il est infecté par le VIH, parce qu'il a une autre pathologie. On parlait de dépistage tout à l'heure. La stratégie, c'est de faire un dépistage groupé aujourd'hui, de combiner l'infection à VIH, l'infection à VHB, à VHC, voire la syphilis. Tout à l'heure, Françoise Barré-Sinoussi parlait des nouveaux outils qu'on aura au lit du malade. Il ne s'agit pas de faire l'erreur de les mettre dans les zones reculées. Il faut que ces outils soient disponibles pour nous aussi dans les hôpitaux pour pouvoir prendre des décisions rapidement. Et lorsqu'on fait un essai thérapeutique, la première question qu'on nous pose, quel est l'impact que vous allez avoir si vos résultats, en fonction de votre hypothèse de départ, sont positifs. Et après, il faut les transmettre, les transférer sur le terrain. Donc notre recherche, elle est très scientifique, mais il y a toujours de l'opérationnel qui est attendu derrière. La recherche n'est pas que rêve, hein. C'est la réalité à la fin.
Appliqué aussi, voilà. Appliqué dans le concret, professeur Françoise Barré-Sinoussi. Tout à l'heure, on parlait des ARV, on parlait d'une forme de chronicité, mais en même temps, attention, ne pas banaliser quand on prend des ARV au quotidien. C'est pas comme pour certaines personnes de prendre un traitement simple. On a parlé de ce contrôle de la charge virale. Il y a quand même toujours cette difficulté quand on parle du sida, à la fois ne pas tomber dans le catastrophisme et ne pas banaliser. Comment on marche sur ces deux terrains pour justement dire « attention, ça va, c'est réglé ?» Non, c'est pas réglé, il faut toujours rester mobilisé.
C'est absolument pas réglé, les chiffres parlent d'eux-mêmes aujourd'hui, puisqu'il y a encore chaque année environ 1,8 million de nouvelles infections dans le monde, et ça bouge pas, ça se stabilise. Donc le problème n'est absolument pas réglé, et il faut continuer justement cette lutte, essayer d'atteindre toutes les populations populations qui peuvent être concernées. Il faut un petit peu justement prendre chacun selon ses spécificités, selon sa personnalité, pour améliorer à la fois le dépistage et la prise en charge de cette infection VIH. Malheureusement, on s'aperçoit que chez les jeunes aujourd'hui, il y a
justement
un appel
à la jeunesse.
Un appel à la jeunesse.
Et d'ailleurs international, hein, c'est pas sud, nord, est, c'est partout.
Complètement. Et aussi, y compris pour les jeunes adolescents qui sont sous antirétroviraux, arrivés à l'adolescence, pour eux, c'est toute leur vie qu'ils vont devoir prendre ces médicaments. Et certains d'entre eux, on le sait bien, arrêtent leurs médicaments. Donc un problème d'observance, résistance aux antirétroviraux parce qu'ils arrêtent les médicaments et redémarrage de la maladie s'ils ne sont pas à nouveau pris en charge par d'autres combinaisons thérapeutiques. Donc c'est un véritable problème et moi qui suis en fin, plus qu'en fin de carrière même, c'est, j'ai qu'une peur, mais une peur monstre, c'est être encore de ce monde et revoir une réémergence du VIH. Je ne voudrais surtout pas voir ça.
Donc, ce message, protégez-vous encore et toujours. Les scientifiques travaillent. Informez-vous et mobilisez-vous. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation. Professeur Françoise Barré-Sinoussi, ravi de vous avoir reçu ici à Amsterdam. Je rappelle que vous êtes l'actuelle présidente de SIDAction Co, découvreuse du VIH. Pour ceux qui l'ignorent encore, prix Nobel de médecine 2008. Merci beaucoup à vous, professeur Serge Héolier, médecin au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville, professeur à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire. À vous, docteur Dominique Mamboun-Sondé, merci. Médecin au Centre de traitement ambulatoire de Brazzaville et docteur Camille Anoma, coordinateur national du projet PrEP en Côte d'Ivoire, où vous dirigez l'ONG Espace Confiance. Cette émission, enregistrée à Amsterdam à l'occasion de la 22e conférence de l'IAS, a été réalisée en partenariat avec Expertise France à travers l'initiative 5%, la contribution de la France au Fonds mondial. Et merci à l'équipe de Priorité Santé qui a préparé et fabriqué cette émission ici à Amsterdam. Ophélie Lassen, Victor Hull, Didier Bleu à Paris. On va se retrouver demain, toujours à Amsterdam, pour parler du financement des programmes de lutte contre le sida. Quel leadership sur le plan mondial? Comment la communauté doit-elle agir pour continuer justement à mobiliser, alors que le combat contre le VIH-Sida, malgré les progrès, malgré les espoirs que l'on vient d'évoquer, est loin d'être gagné. On se donne rendez-vous demain et vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet rfi.fr, rubrique émission.
C'était Priorité Santé. Selon le SIDA, quelques 36,7 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH. Des progrès considérables ont été réalisés au cours des 15 dernières années, mais chaque année, 1 million de personnes meurent de maladies liées au sida et 2 millions de personnes se retrouvent infectées par le VIH. Bien qu'un traitement est maintenant disponible, moins de la moitié des personnes ayant le VIH ont accès à celui-ci. Il existe un risque certain à ce que la maladie prenne de l'ampleur si de réels progrès ne sont pas accomplis pour arrêter de nouvelles infections au VIH chez les adultes. Sur les 5 dernières années, de nouvelles infections au VIH ne cessent de croître, contribuant ainsi à la montée du nombre de personnes vivant avec le VIH et ayant besoin d'être soignées. L'éventail d'options de prévention n'a jamais été aussi large qu'aujourd'hui. Ces différentes options doivent être à la portée des personnes les plus vulnérables à l'infection du VIH, notamment les femmes et les jeunes femmes, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les personnes transgenres, les professionnels du sexe et les toxicomanes. Il est nécessaire d'investir davantage dans la recherche afin d'obtenir un vaccin et soigner le VIH ainsi qu'améliorer l'accès à la thérapie antirétrovirale de manière à ce que toutes les personnes touchées par le VIH puissent vivre une longue et pleine vie. Mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable est possible seulement si nous répondons rapidement à la menace qu'est le VIH.
Le 1er décembre 2019, journée mondiale de lutte contre le sida. Et oui, il reste tant à faire, selon nos partenaires communautaires ainsi que les agences gouvernementales. Certains de nos médias partenaires ciblent les plus jeunes, notamment ceux et celles qui ne sont pas concernés par la tendance à la baisse. En effet, chez les moins de 25 ans, les découvertes de zéropositivité sont en hausse.
des campagnes qui visent à mobiliser le public, il faut une vigilance de chaque instant pour empêcher l'épidémie de regagner du terrain. Au plan de la prévention, les jeunes gays sont plus particulièrement exposés au VIH, mais l'éducation à la sexualité dispensée en milieu scolaire ne prend pas toujours en compte leurs besoins spécifiques. Réussir à toucher ce public est donc une priorité pour les acteurs de prévention. Après avoir produit un guide sur la réalisation d'actions ciblées sur Internet, un groupe de travail est constitué cette année pour aider les acteurs à mener des actions spécifiques sur les applications de rencontres en direction de ce public. Et rapidement, je vous rappelle que l'épidémie généralisée du VIH ne faiblit pas dans les Antilles. La Martinique toujours mal placée, le nombre de cas augmente en Martinique et le constat est sans appel. Le taux de découverte de séropositivité est le deuxième plus élevé de ce territoire français avec 210 cas pour 1 million d'habitants en 2017 contre 287 en 2018. Par ailleurs, en vente depuis 2015, les autotests ont été moins utilisés en Martinique en 2018. De notre correspondant en Guyane, Saint-Laurent de Maroni, dans l'ouest guyanais, nous avons vécu samedi 30 novembre, donc samedi dernier, la première marche contre le VIH. L'action pour ses organisateurs d'attirer l'œil des habitants sur une épidémie qui est plus active que dans n'importe quel département français et donc la propagation est favorisée par le tabou qui entoure encore aujourd'hui cette maladie sur le territoire. La forte présence du VIH dans la région s'explique en partie par la situation géographique du territoire, coincé entre plusieurs zones de mobilité migratoire. Ainsi, 80% des séropositifs dépistés en 2018 sont originaires du Brésil, du Suriname, de Guyana ou d'Haïti. C'est un bassin de vie. Les gens bougent, la frontière n'existe que sur les cartes. Même si moins qu'avant, beaucoup vivent cachés avec le VIH, parfois dans des conditions très précaires, beaucoup de patients nous disent qu'ils ne peuvent pas en parler à leur famille, à leurs amis, par peur de se faire rejeter. C'est une maladie très mal vue, considérée comme sale, très taboue. Une habitude du secret qui diminue, mais qui s'accompagne toujours de discrimination. Selon Yeke C., qui vit avec le VIH depuis 10 ans, un de ses amis a été forcé de manger dans des bouteilles en plastique coupées, sa famille refusant de lui laisser utiliser les assiettes par peur d'être contaminé. Ces discriminations existent à tous les niveaux, professionnels ou sociaux, certains ne veulent pas être avec ces gens-là. Un rejet favorisé par la persistance de rumeurs et croyances erronées. On ne peut pas arrêter les gens, ils parlent de ce qu'ils veulent dans votre dos, nous dit une personne vivant avec le VIH. Malgré ces difficultés, les divers maillons de la lutte contre le VIH dans l'ouest de la Guyane se montrent très dynamiques. Tous prennent en compte les barrières linguistiques et de compréhension de leurs patients, conscients que la documentation officielle en français est insuffisante. Tous cherchent à développer la santé communautaire, à mettre en place des outils pédagogiques, des médiateurs dans les différentes communautés du territoire afin de diffuser un maximum d'informations et de faire remonter les questions et demandes des habitants. Merci à notre confrère Samuel Sralos de Radio France Internationale.
Et il y a aussi nous, nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls, nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
CIUT 89.5 Toronto.
RFI. Toute la diversité du monde.
Bientôt à l'émission.
Le français, ça vous chante ? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dani Toubiana, bonjour. Aujourd'hui, le français ça vous chante vous emmène en balade dans le Paris qui s'éveille en compagnie d'un octambule de charme, Jacques Dutronc.
La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé.
Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, dites bonjour à mes parents qui habitent le cinquième rang. Pour les manquer, prenez le chemin pas pavé. Près de la maison, vous verrez, il y a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, ma haute robe sont habillés. Il dira, mais entrez donc, passez donc dans le salon. Les planchers sont frais cirés, on ose à peine marcher. Un bouquet de fleurs des champs embaume l'appartement. Que c'est charmant.
Et oui.
Chez nos parents.
Dit fin d'année, dit bilan, rétrospective. Ne manquez pas nos émissions spéciales avec des diplomates, des écrivains, des personnalités, des agents de changement communautaire. Et nous livrerons à leur façon les faits saillants qui ont marqué leur monde en 2019. Dimanche 8 décembre, nous aurons le plaisir de recevoir le consul honoraire d'Haïti, le docteur Éric Pierre. Et le 15 décembre, Faïza Abdelawi, entrepreneur, experte, conseil, coach, et sera des nôtres. Un réveillon de Noël pour les orphelins francophones le 24 décembre avec Toronto French Friday. Avec des cadeaux, des surprises, vous souhaitez être des nôtres, veuillez nous écrire immédiatement à popourri@cut.fm. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité et vous souhaite de joyeux temps de fête.
Parce que c'est gai dans nos veillées, la vie a du bon dans nos vieilles maisons. Pour ceux qui prennent un petit coup, papa sort son caribou. Quand on est bien réchauffé, on s'invite pour danser.
Si tu m'aimes pas, fais-moi confiance, abandonne-toi à moi.
N'y pense même pas, n'y pense même pas. Le préservatif nous protège, toi et moi. N'y pense même pas, comment oses-tu me demander ça. N'y pense même pas, t'as perdu la tête, t'es pas bien ou quoi. N'y pense même pas, d'abord on fait le test et après on verra. Mais c'est pas pour moi.
Oui, dimanche 1er décembre 2019, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et cette année, le thème choisi par l'ONU SIDA, les communautés font la différence. Au programme commémoration, brunch, un verre de l'amitié après l'émission avec nos invités qui sont avec nous. Plusieurs médias, organismes communautaires se mobilisent pour proposer des actions de visibilité, de plaidoyer, de sensibilisation et de dépistage partout dans le monde. CUT 89,5 FM pour nous joindre. popourri@cut.fm.
Et oui, le VIH-Sida est désormais reconnu comme une question importante sur le lieu de travail. Lors de la 17e conférence internationale sur le sida qui s'est tenue à Mexico City le 3 août dernier, l'un des plus grands rassemblements jamais organisés par l'ONU-SIDA. Et nous avons constaté que les effets du VIH à sida sont dévastateurs sur le monde du travail. Sur environ 33 millions de personnes qui vivent avec le VIH à sida, 30 millions sont en âge de travailler. Les lieux de travail sont d'une importance cruciale pour l'information sur le VIH à sida, la prévention, la non-discrimination et l'accès au traitement, selon le docteur Sophia Kisting, directrice de l'Organisation internationale du sida, Travail Sida. Elle en a profité pour présenter un recueil de directives pratiques sur le VIH à sida avec des pistes d'accès universel à la prévention et au traitement du sida, aux soins et au soutien. Résultat d'un sondage sur les attitudes envers les personnes vivant avec le VIH. Des recherches menées au Canada, démontrent que les personnes vivant avec le VIH continuent à souffrir de stigmatisation et de discrimination en milieu de soins de santé. Nous savons que la stigmatisation et la discrimination en milieu de soins de santé ont des conséquences négatives pour les personnes vivant avec le VIH et sur la qualité des soins qui leur sont offerts. Nous savons aussi que la stigmatisation et la discrimination liées au VIH nuisent à l'accès aux soins de santé pour les personnes vivant avec le VIH. Les expériences des participants à un sondage qui ont révélé une autre forme de stigmatisation liée au VIH que l'on nomme stigmatisation structurelle. Les participants ayant subi des formes de stigmatisation ont déclaré avoir été traités comme s'ils avaient moins de droits que les autres patients et avoir été traités différemment par les fournisseurs de soins en raison de leur statut sérologique. Un auditeur nous écrit « Il faut simplifier l'accès à la prévention et au traitement ». Ainsi, dans un pays où l'homosexualité est criminalisée, une personne gay, malade, n'aura que très difficilement accès au traitement, puisqu'elle ne prendra pas le risque de pousser la porte de l'hôpital. Cette stigmatisation fait que celles que l'on appelle les populations clés, soit les homosexuels, les usagers de drogue, les prisonniers, les travailleuses de sexe, constitue un réservoir important de l'épidémie. Pour la première fois en 2018, ces catégories ont représenté plus de la moitié des nouvelles contaminations. Et oui, chaque année, plus de 2000 Canadiens sont infectés par le VIH au pays. Au Manitoba, le nombre de nouveaux diagnostics est en hausse. Les Autochtones et les nouveaux arrivants africains en seraient les principales victimes, mais pour différentes raisons. Pierre Plourde, médecin hygiéniste, nous dit qu'il y a ce qu'il appelle des personnes non infectées qui pensent qu'ils sont maintenant une fois au Canada. Ce sont ces immigrants qui arrivent ici en disant « Ah, je suis dans un pays parfaitement sécure, donc je peux vivre ma sexualité comme je m'entends, et donc le VIH n'existe pas au Canada ». À quel titre souhaiteriez-vous immigrer au Canada? Eh oui, il y a des gens qui nous écoutent sur Internet, en Afrique ou ailleurs, et qui peut-être vivent avec la maladie et qui se posent des questions sur la façon de se préparer pour venir au Canada. Un excellent outil en ligne, gracieuseté de immigration-vih.ca. Allez-y, madame, monsieur, vous allez voir, c'est un outil très, très instructif. C'est un guide qui a pour but d'aider à comprendre le processus de demande d'immigration pour une personne vivant avec le VIH. Il contient de l'information juridique générale. Sachez notamment que si vous êtes sur le territoire canadien et que vous ne pouvez pas faire de demande dans les catégories détaillées sur cet outil, eh bien vous pouvez éventuellement faire une demande de résidence permanente pour considération d'ordre humanitaire. Il vous faudra néanmoins répondre aux conditions requises. Il est fort complexe pour les personnes vivant avec le VIH de voir leur dossier d'immigration accepté. Leur obstacle principal, le gouvernement juge qu'elles peuvent représenter un fardeau excessif pour les services sociaux et de santé au pays. Pour plus d'informations, je vous recommande d'aller sur ce site immigrationvih.ca. Je répète, immigrationvih.ca.
Hier encore, j'étais vivant, je caressais le temps et jouais de ma vie. J'écoutais les conseils de Malher et Gaby sur les préservatifs et toutes les maladies. Un soir, j'ai ramené une meuf à la maison, c'était plutôt pas mal de se taper un canon. Je ne la connaissais pas, mais tout au fond de moi, jamais je n'aurais pensé qu'elle pouvait me tuer. Hier encore, j'étais vivant aux yeux de mes amis. Moi, j'étais le plus grand qui aurait pu penser qu'un joli soir d'été, ma vie serait brisée et mes rêves envolés. Ignorant le futur, ne vivant qu'au présent, j'avais une âme pure, je n'étais qu'un enfant. J'avais des précautions, mais j'étais jeune et con. Je n'avais pas suivi les conseils de Gaby. Hier encore, j'étais vivant, juste un adolescent qui faisait des folies. Je demande pardon d'avoir perdu la vie. J'ai compris la leçon, mais trop tard aujourd'hui. Victime du sida, ça te laisse pas le choix. Alors fais pas comme moi, surtout protège-toi. La capote, tu la mets pas qu'au fond de tes poches, pour pas gâcher ta vie et celle des autres aussi. Ce virus est le pire, ton plus grand ennemi. Tes proches sont en pleurs, te portent dans leur cœur, car tu es à présent plus ici, maintenant.
Émission spéciale en ce dimanche 1er décembre 2019, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette année, le thème choisi par l'ONU Sida, les communautés font la différence, et au programme, plusieurs activités se déroulent sur notre territoire mais aussi à travers le monde. Et merci à tous nos amis qui sont avec nous en studio, et peut-être, ils vous diront un petit mot avant la fin de l'émission. Je vous rappelle que certains médecins sont mal à l'aise de parler de sexualité avec leurs patients. La stigmatisation associée à l'orientation homosexuelle et au VIH, notamment dans certaines communautés culturelles, pose problème, eh oui. Donc, même si les Canadiens ont fait du chemin depuis les années 1980 au sujet du sida, les gens atteints de la maladie ne sont toujours pas acceptés dans notre société, dans certaines communautés. Selon le président directeur général et fondateur de la clinique médicale L'Actuelle, Dr. Régent Thomas, un vrai pionnier en la matière, il dit, et je cite, « Il y a trop grand nombre de personnes qui se cachent car elles ne veulent pas être rejetées par ceux et celles qu'elles aiment. » Et il va, il n'y a pas, qu'est-ce qu'il dit ? Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, oui. Il dit, je cite, « Face au désengagement de l'État dans la lutte contre l'épidémie du sida, les organismes communautaires doivent prendre le relais du gouvernement et mener eux-mêmes des campagnes de prévention. » Et pour la deuxième fois dans le monde, un patient atteint par le virus du sida connaît une rémission durable après avoir interrompu son traitement, un résultat qui ouvre la perspective de réussir un jour à guérir la maladie. Comment
Comment lutter contre les inégalités entre les sexes? Comment renforcer la programmation relative au VIH-SIDA pour les femmes et les filles? Bien qu'au niveau mondial, on sait que les femmes souffrent du VIH, les chiffres globaux cachent des différences considérables quant à la maladie implique pour les hommes et les femmes. Certaines de ces différences sont dues à des particularités biologiques, nous dit-on. Et cette fois-ci, nous allons faire un petit détour avec une personne qui est encore très jeune et qui nous va, je pense qu'elle est prête. Elle s'appelle Lucie, elle a 26 ans et elle vit avec le VIH depuis 2012. Témoignage.
Je m'appelle Lucie, j'ai 26 ans, je suis séropositive et aujourd'hui je vais vous parler de ma vie avec le VIH. A priori, j'ai été contaminée par voie sexuelle. C'était certainement un partenaire d'un soir, une bêtise. Au début, ça a changé mon rapport au corps, mon rapport aux autres. J'ai dû prendre des médicaments tous les jours. Je me suis demandé ce que ça allait me faire sur le long terme. Ça a changé mon rapport à ma santé. Dès qu'il y avait un petit truc qui n'allait pas, je me demandais si c'était grave, si c'était pas grave, si c'était lié à ça ou pas. Ça a fait un choc autour de moi. Il y a des gens qui l'ont pris. Mes sœurs l'ont mal pris. Mais tout le monde a su garder un peu la mesure des choses. Et quand on explique en fait correctement ce qui se passe ou ce qui va se passer, les gens comprennent rapidement que c'est pas que je vais pas tomber gravement malade et que je vais pas mourir et que mon espérance de vie va pas être réduite de 40 ans. Et donc les gens comprennent et disent bon. Ça, c'est grave, c'est quelque chose, c'est important, mais c'est pas la fin du monde, quoi. J'ai pas le sida, je l'ai jamais eu, et a priori, je l'aurai jamais si tout va bien. Le sida, c'est quand le VIH dépasse un certain seuil, justement, quand la charge virale devient trop importante, et donc qui permet un affaiblissement du système immunitaire qui permet à d'autres maladies de s'installer, qui s'appellent les maladies opportunistes. Et c'est ça qu'on appelle le stade sida. Mon traitement, moi, c'est 3 pilules à prendre toutes les 24 heures. Ce que ça fait, c'est que ça diminue la charge virale du VIH dans le corps, qui fait que, d'une part, il est assez peu présent, donc il n'a pas d'impact sur mon organisme, et d'autre part, il ne peut pas être transmis. C'est ce qu'on appelle la charge virale indétectable. Au début, j'avais peur de contaminer l'autre et on devait garder le préservatif. Et donc, le premier petit copain que j'ai eu après l'avoir appris, on est resté 2 ans ensemble et on n'a jamais arrêté le préservatif. Mais à part ça, il n'y avait rien qu'on ne pouvait pas faire, en fait. Mais enfin, lui, il était assez inquiet, donc il avait voulu venir à un rendez-vous avec mon médecin pour savoir exactement est-ce qu'on peut faire certaines choses ou pas, comme le sexe oral, est-ce que c'est plus contaminant, est-ce qu'il y a des risques. Et le médecin nous avait dit non, parce que comme la charge virale est indétectable, justement, il n'y a aucun risque de transmission. Donc en fait, on peut tout faire. Et actuellement, avec mon nouveau partenaire, avec qui je suis depuis un petit bout de temps aussi, depuis 2 ans, on a carrément pu arrêter le préservatif. Donc on n'a même plus ce truc-là qui nous rappelle qu'il y a le VIH, en fait. Le dépistage, et donc connaître son statut, qu'il soit négatif ou positif, c'est savoir si on protège l'autre et soi-même. Si on est positif, on peut commencer un traitement, on peut réduire sa charge virale et donc on peut arrêter, ne pas transmettre le virus. Et si on est négatif, on peut le rester, surtout. Il y a des gens qui ont donné littéralement leur vie pour que nous, on ne se contamine plus, pour que l'épidémie cesse. Et oui, derrière, enfin, on est encore trop nombreux à ne pas faire attention et à ne pas leur faire honneur, en fait. Pendant un moment, je me suis sentie très coupable d'avoir réussi à me faire contaminer alors qu'on m'avait prévenue quand même. Enfin, j'étais informée, j'avais vu des campagnes, j'avais vu des affiches, j'avais vu des reportages. Et j'avais quand même fait ce choix, inconscient ou pas, de ne pas faire attention. Donc je me suis sentie coupable de m'être laissée, d'avoir été inconsciente. Insouciante, parce que enfin, on peut pas dire qu'on nous prévient pas, quoi.
Mmh.
Dans la lutte contre l'épidémie du VIH à SIDA, le Cambodge fait souvent figure d'exemple. Et oui, le Cambodge, qui aurait cru? Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la prévalence du virus a sensiblement diminué, passant de 1,8% à 0,6% en 20 ans. Aujourd'hui, plus de 80% des personnes infectées sont sous traitement. Le pays peut ainsi espérer atteindre les objectifs 90-90-90 fixés par le programme des Nations Unies. Comment innover pour combattre les préjugés? Le sida est encore tabou dans beaucoup de communautés en Haïti, en Afrique. Il y a des insultes, des licenciements, des isolements, voire des abandons dans certaines communautés où le sida est perçu comme une honte. Une personne sur quatre infectée par le VIH ne connaît pas son statut. Tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le sida insistent sur un point. Pour arrêter la propagation du virus, il faut encourager le dépistage. Se faire tester reste cependant un véritable tabou dans certains pays africains, obligeant les soignants et les ONG à mettre en place d'autres pratiques pour contourner la stigmate. L'important, c'est de continuer à sensibiliser les directions d'école, les parents, les enseignants, les élèves à propos du MTS, du sida et des grossesses à l'adolescence pour qu'ainsi ils puissent évaluer le besoin de rendre les condoms accessibles pour des élèves dans des écoles secondaires. Il est primordial de comprendre que l'accès aux condoms en milieu scolaire constitue une approche éducative importante, puisqu'elle permet de responsabiliser les adolescents, les adolescentes, et de leur faire prendre conscience des risques auxquels ils s'exposent. Non seulement il est important pour les jeunes individuellement, mais également pour l'ensemble de la population qui, de cette façon, se voit évoluer au sein d'une société responsable et avertie. J'espère que cette émission vous a plu. Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires, les personnes vivant avec le VIH, qui ont participé à cette édition spéciale. Notre collègue Caroline Paré de RFI et ses invités, TV5 Monde, France 24, l'ONU SIDA, Expertise France, le gouvernement du Canada, DJ Devera, ici Eric Kader, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une émission spéciale dans le cadre de deux émissions de fin d'année. Et nous recevrons le consul honoraire d'Haïti, le docteur Éric Pierre. Je vous souhaite un bon dimanche, bonne semaine, que la force soit avec vous.
Sur toi, fracasse en ta vie et celle de tes proches. CIUT 89.5 FM, the station that brings you a celebration of culture and music from the African continent on Karibuni, Sunday afternoons at 3.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
This is Ken Stauer, station manager for CIUT FM. At this time, we are still looking to reach our goal of $100,000 by December the 31st. You may help us get there by making your financial donation by simply going to www.ciut.fm. CIUT FM is a registered charitable organization, so you will be sent a tax receipt. Your name will also be entered into the grand prize draw that includes return airfare to Iceland, courtesy of Iceland Air. Thank you in advance for your support for the radio station that keeps on delivering the sound of your city each and every day. CIUT FM 89.5.
CIUT 89.5, Toronto.